Nadwa.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.
Chers fidèles auditeurs, bienvenue sur Radio Manarat pour un nouvel épisode de notre émission Nadwa. Le thème du sujet d'aujourd'hui est de comprendre le rôle des émotions dans la prise de décision. Sander David, directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives et professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, nous explique comment nos émotions nous gouvernent. Je vous laisse alors à vos émotions.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Madame la chancelière d'État, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs, là, en termes d'émotions, voilà de l'embarras que je ressens après une telle introduction. Je voudrais aussi commencer par une émotion qui est la gratitude pour remercier l'invitation et remercier l'idée d'avoir organisé cette semaine de la démocratie qui est extrêmement importante, il me semble, et d'avoir invité les émotions cette semaine de la démocratie. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Je remercie aussi Aurélie Lara qui a énormément travaillé pour l'organisation de la soirée ce soir. Alors effectivement, je vais vous parler du rôle des émotions dans la prise de décision. Et je voudrais déjà vous remercier pour une décision que vous avez prise. Parce que finalement, ce soir, vous aviez le choix entre venir à cette conférence et puis peut-être aller boire un verre, surtout qu'il y a du soleil, dehors il fait beau. Vous auriez pu être en terrasse au soleil, mais vous avez pris cette décision, vous avez fait ce choix. Et c'est un choix qui est probablement aussi émotionnel, dans une certaine mesure. Peut-être qu'une émotion particulière qui vous a guidé ce soir, c'est ce que l'on appelle l'intérêt, qui est, oui, une émotion qu'on appelle épistémique, d'ailleurs, et qui peut-être a guidé dans votre choix pour venir ce soir. Alors je vais, après une brève introduction, ensuite vous expliquer plus en détail le plan de ma présentation qui durera environ une petite heure. Comme ça, on aura le temps pour une discussion après. Alors, utiliser ces émotions pour prendre des décisions, c'est quelque chose qui peut paraître assez évident dans un grand nombre de circonstances. Par exemple, si jamais vous allez choisir un parfum, vous pouvez imaginer volontiers que vous allez utiliser vos réactions émotionnelles à chaque parfum que vous allez sentir pour prendre la décision de quel parfum acheter. Si jamais vous allez au restaurant et que vous allez commander une entrée, un plat, un dessert, vous allez probablement utiliser les émotions anticipées pour prendre la décision et pas forcément analyser systématiquement le nombre de calories, le nombre de lipides, le nombre de glucides qu'il y a dans chaque aliment. Quand vous allez faire un investissement à la banque financière, là aussi il y a une analyse des risques qui va être faite. Et vous êtes d'accord que, intuitivement, pour l'instant on n'est pas encore dans des recherches scientifiques, mais intuitivement on se dit que nos émotions, même si on pourrait souhaiter qu'elles ne jouent pas de rôle quand on doit faire ce genre de choix, finalement vont s'inviter à la table au moment de prendre la décision. Quand on choisit ses amis, quand on prend des décisions sociales, là ça paraît vraiment naturel et évident que les émotions vont jouer un rôle. Qui pourrait se dire que les émotions ne jouent pas un rôle quand on décide si oui ou non on va se marier ? D'accord ? Donc les décisions plus ou moins importantes vont plus ou moins faire appel aux émotions. En cas d'une votation, par exemple, c'est une décision importante qui est prise, et là, la question peut se poser de savoir à quel point, c'est ce que disait Madame la Chancelière, à quel point les émotions vont jouer un rôle. Ce qu'on a appris à travers un grand nombre de recherches, que ce soit des recherches en psychologie, en neurosciences ou en économie, c'est ce que nous dit ici Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un enjeu important, dès qu'il y a une préoccupation importante, eh bien c'est là où les émotions vont être particulièrement impliquées. Et donc, quelque part, les émotions peuvent être vues comme des détecteurs d'importance ou des détecteurs de pertinence, c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui ressent une émotion forte, ça veut dire que ce qu'il a vécu est quelque chose qui l'a beaucoup touché, qui est important pour lui. Une autre manière d'aborder le problème ces dernières années, eh bien, a été de tester des patients qui ont des problèmes émotionnels, qui ont des troubles émotionnels. Et un résultat que vous trouvez en particulier dans un livre d'Antonio Damasio et puis dans ses recherches après, démontre que finalement, ceux qui n'ont pas d'émotion, qui ont des grands problèmes émotionnels, ont aussi d'immenses problèmes à prendre des décisions. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un acteur qui serait totalement rationnel si on veut les opposer, ce que je ne fais pas personnellement, eh bien, on pourrait se dire que lui, il va prendre des bonnes décisions. Et en fait, des gens qui ont des vrais problèmes émotionnels ont un mal fou à prendre des décisions. Ce qui suggère effectivement que l'émotion joue un rôle très souvent dans la prise de décision. Alors effectivement, je voulais vous parler tout de suite pour qu'on se mette dans le bain d'émotions en lien avec la politique. Et puis après, on va essayer de décortiquer un petit peu les mécanismes que l'on pense impliquer dans les émotions et dans leurs effets sur la prise de décision. Il y a une étude assez récente qui s'est intéressée à l'élection Trump-Clinton et qui a analysé le type d'émotions qui étaient particulièrement présentes dans la campagne. Et en fait, comme beaucoup d'autres campagnes qui ont été analysées, on retrouve 3, 4 ou 5 grandes émotions qui sont véhiculées, que ce soit par les campagnes habituelles, mais aussi dans les réseaux sociaux, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui sont la colère, la peur, l'espoir et l'enthousiasme. Il y a même, selon certains analystes, l'idée que l'année 2016 a été l'année de celui qui est en colère, de celui qui va voter en colère, the year of the angry voter, parce que la colère était une émotion extrêmement présente dans tous les discours. Par exemple, Trump a dit qu'il sera plus en colère quand tous les problèmes du pays seront réglés, mais qu'en attendant, il restera très en colère. Et puis Bernie Sanders aussi dit qu'il est en colère et le peuple américain est en colère. Okay ? Et si on analyse l'ensemble de la campagne d'un point de vue, d'un point de vue émotionnel, eh bien on voit que pour la campagne de Trump, environ 45% de la campagne était liée à l'espoir. Chez Clinton, 28%. Trump avait seulement 9% de sa campagne liée à l'enthousiasme. Clinton en avait 53%. Vous voyez une différence énorme ici. Tous les deux ont très fortement joué sur la colère. Trump encore un peu plus. Et puis seulement, si j'ose dire, environ 20% chacun pour la peur. Et ce sont des émotions extrêmement présentes depuis très longtemps dans les campagnes, comme cela a été évoqué dans l'introduction, et qui ont aussi beaucoup joué dans les médias sociaux. Une émotion, en fait, est toujours déclenchée par quelque chose. Et c'est quelque chose qui est fascinant à étudier, c'est de se demander qu'est-ce qui va déclencher une émotion plutôt qu'une autre. Et en fait, l'émotion, dans son déclenchement, fait qu'elle est toujours rattachée à un événement spécifique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle dans le jargon un objet qui va déclencher l'émotion. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez eu peur, vous n'aviez pas juste peur, vous aviez peur de quelque chose. La dernière fois que vous étiez en colère, vous n'étiez pas juste en colère, vous étiez en colère à propos d'une injustice. La dernière fois que vous étiez triste, vous n'étiez pas juste triste, vous étiez triste à propos d'une perte. Et en fait, ce lien reste dans le cerveau entre la réaction et l'objet lui-même. C'est pour ça que des si jeunes bébés peuvent très facilement passer des pleurs au rire parce que leur attention se focalise sur un autre déclencheur. Donc contrairement à une humeur qui, elle, ne serait pas liée directement à un stimulus spécifique, l'émotion est toujours rattachée à une situation spécifique. Ça, c'est un premier élément dont je voulais parler. Le deuxième, c'est que cette situation va déclencher une réaction, et une réaction dans plusieurs composantes de l'organisme. Une qui est évidente ici, c'est l'expression. L'expression motrice, que ce soit le visage, que ce soit la voix, que ce soit la posture, on voit bien qu'il y a une réaction assez forte qui mobilise l'organisme. Et donc c'est vrai, quand on a une émotion, eh bien, il n'y a pas seulement l'expression motrice, mais il y a aussi l'ensemble finalement de la réaction corporelle qui est présente, avec de la sueur, la respiration qui change, etc. Ce qu'on voit d'autre, ce qu'on voit également un petit peu, c'est ce que nous on appelle la tendance à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une émotion, eh bien, en général, l'émotion nous prépare à agir. Si vous pensez à la colère ou à la peur, vous êtes d'accord que quand on est en colère ou quand on a peur, on n'est pas juste « Ah, j'ai peur, je suis en colère ». Ça nous pousse en fait à agir. Et probablement même que d'un point de vue évolutionnaire, la sélection a fait que nous avons ces réactions-là pour justement pouvoir, par exemple, fuir ou par exemple attaquer dans de nombreuses situations. Et peut-être qu'une des raisons principales pour lesquelles nous avons des émotions, c'est parce qu'elles nous préparent à l'action. Et pas tellement parce qu'elles nous font ressentir phénoménologiquement des choses parfois si intéressantes. Et pour vous parler d'une dernière composante, on va rester dans le domaine politique, qui est un de mes extraits favoris pour parler des émotions, qui est un exemple de colère. D'accord ? Et on va passer un tout petit moment sur cet extrait. On pourrait passer toute la conférence dessus, ce ne sera pas le cas, parce que je veux qu'on aille sur d'autres terrains. Et à nouveau, je vais vous demander d'être le plus attentif possible sur la manière dont l'émotion de colère, en l'occurrence, est exprimée, mais surtout sur la manière dont elle est justifiée, d'accord, par Ségolène Royal elle-même. Okay ? Et aussi comment réagit son interlocuteur.
Alors, laissez de côté vos tribunaux, les démarches des parents qui en ont assez déjà de leur souffrance et d'avoir vu leurs enfants ne pas pouvoir être inscrits lors des rentrées scolaires pendant lesquelles vous étiez au gouvernement. Laissez cela de côté, parce que la façon là dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents de voir leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Alors, ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous
calmez-vous,
et les parents, non, je ne me calmerai pas.
Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas.
Ben,
je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines.
Un épisode de colère, on ne va pas débattre pour savoir si c'était une colère authentique ou une colère jouée. Il y a eu énormément de débats à l'époque là-dessus. Mais imaginons que ce soit une colère authentique. Donc on retrouve tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un événement déclencheur, d'accord ? Il y a une expression faciale, vocale, il y a une tendance à l'action assez claire. Probablement d'un point de vue physiologique, si on avait les électrodes pour mesurer, on verrait des changements. Et puis il y a ce qu'on appelle le sentiment subjectif, c'est-à-dire le ressenti de colère, que souvent on peut identifier grâce au label verbal. C'est-à-dire qu'elle nous dit « je suis en colère ». Et c'est un indice qu'on utilise souvent pour savoir si quelqu'un ressent de la colère ou non. Et en termes de justification, comment est-ce qu'elle justifie sa colère ? Eh bien, vous voyez qu'elle justifie sa colère avant tout en expliquant que, pour elle, la justice est une valeur extrêmement importante. Et que puisque Nicolas Sarkozy, selon elle, est en train de proposer quelque chose d'injuste, elle doit montrer sa colère, finalement. Parce que si jamais il y a une injustice, et puis qu'elle ne réagit pas face à l'injustice en étant en colère, c'est comme si elle ne trouvait pas que c'était injuste. Et c'est ce qu'elle explique en disant il y a des colères qui sont parfaitement saines, c'est-à-dire que c'est une colère totalement justifiée que de réagir face à cette injustice. Et on voit à quel point est-ce que, du coup, l'émotion peut être utilisée aussi en rhétorique. Aristote, déjà, disait qu'il fallait exprimer la colère quand on était offensé, sinon on était un fou social. Parce que face à l'offense, il faut réagir notamment par de la colère. Ce qui va être déterminant pour savoir quelle émotion est déclenchée, eh bien, ce seront justement les valeurs qu'ont les individus, leurs objectifs à un moment donné, et leurs préoccupations, de manière plus générale. Les émotions positives sont en général déclenchées quand un événement va faciliter nos préoccupations, nos valeurs. Si jamais vous êtes pour un candidat en politique ou pour une équipe de sport, vous aurez plutôt une émotion positive si jamais le candidat gagne aux élections ou si votre équipe préférée gagne. Par contre, vous aurez une émotion négative si jamais votre équipe préférée perd ou le candidat perd. Donc voyez l'importance des valeurs et des préoccupations parce qu'elles déterminent finalement en grande partie si une émotion va être positive ou négative. Et puis, il y a tout un processus qu'on appelle un processus d'évaluation cognitive qui, justement, va toucher des motivations spécifiques aux individus qui correspond à l'évaluation de la situation. Et c'est exactement sur ce type de processus-là que le micro-targeting dont vous parlez, la chancelière d'État tout à l'heure, va jouer. C'est-à-dire le côté totalement personnel et individuel du déclencheur émotionnel. Dès lors que l'on a une idée assez précise de ça, de ce qui va vous toucher, de ce qui compte pour vous, de vos valeurs, de vos opinions, de vos objectifs, eh bien, on peut essayer beaucoup plus facilement de les modifier, parce que justement, les émotions ne sont pas des réflexes et sont très subjectives. Par exemple, si jamais il y a un événement qui est très attendu ou qui n'est pas du tout attendu, ça va déclencher des réactions émotionnelles différentes. Une émotion typique qui va se passer si jamais un événement se produit auquel vous attendiez pas du tout, c'est de la surprise, d'accord, tout simplement. Quelque chose de très nouveau va déclencher de la surprise. L'idée de la pertinence, c'est la question de savoir si ce qui se passe dans l'environnement est important pour vous. Et en fait, ce que montrent les études, c'est que seulement ce qui est important pour l'individu est susceptible de déclencher une émotion. Donc si jamais il se produit quelque chose qui ne va pas être important pour vous par rapport à vos préoccupations, eh bien, il n'y aura pas d'émotion déclenchée. Par contre, si quelqu'un d'autre a des préoccupations très fortes par rapport à cet événement, il aura une émotion très forte. Une autre évaluation qu'on fait concerne les implications de l'événement. Quand l'événement se produit, si jamais les implications sont dangereuses, par exemple très négatives, eh bien ça pourra déclencher une émotion de peur ou de colère. Par contre, si jamais elles sont plutôt positives, on aura plutôt une émotion positive. Et un autre critère qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le potentiel de maîtrise. C'est un nom qui est un tout petit peu technique. C'est le coping potential en anglais. C'est simplement de savoir dans quelle mesure est-ce que l'on a l'impression subjective que l'on est capable de contrôler la situation. Si l'on a l'impression qu'on n'est pas capable de contrôler la situation, on aura assez facilement de la peur ou du stress. Dès lors que l'on a l'impression subjective que l'on est capable de maîtriser la situation et ses conséquences, on aura plutôt de la colère. Et du coup, si on a plutôt de la colère, eh bien, ça va déclencher par exemple des tendances à l'action, d'approche, et puis ça peut aider certaines révolutions qui pourraient être positives dans certains cas, ou en tout cas, ça peut faciliter certaines transgressions, par exemple. Et ce que montrent nos recherches, et notre vice-recteur Michel Auris l'évoquait tout à l'heure, c'est le fait qu'on étudie de plus en plus les liens entre l'émotion et la connaissance, l'émotion et la cognition. Ça aurait pu être une autre conférence sur ce thème-là, qui est aussi très passionnant, qui est d'essayer de comprendre comment est-ce que nos émotions facilitent en fait l'acquisition de connaissances, le stockage de connaissances et l'utilisation des connaissances. On a très longtemps opposé émotion et cognition, pensant que l'émotion allait surtout interférer avec la cognition. On a maintenant un grand nombre d'arguments pour dire que souvent, mais pas tout le temps, plutôt que d'interférer, l'émotion va plutôt faciliter dans le cerveau les processus qui permettent l'acquisition, le stockage et l'utilisation des connaissances. Sur la mémoire, peut-être un exemple qui est assez fréquemment utilisé par les chercheurs dans mon domaine. Parmi vous, qui se souvient ce qu'il ou elle était en train de faire le 11 septembre 2001 quand vous avez appris pour les attaques, pour l'acte terroriste? Peut-être lever la main ceux qui se rappellent exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Donc vous avez une mémoire épisodique qui est assez spécifique de ce que vous faisiez. D'accord ? Levez la main ceux qui se rappellent ce qu'ils faisaient la veille à la même heure. Ok ? Ou le lendemain à la même heure ? En général, c'est seulement les gens qui faisaient la même chose qui s'en souviennent. Ouais, c'est ça. Et alors la raison ? Eh bien la raison, elle vient probablement, alors parmi d'autres raisons, mais la raison neurophysiologique, si vous voulez, c'est la proximité et les interactions très fortes entre l'amygdale cérébrale, qui est une région très importante pour les émotions, et l'hippocampe, qui est une région très importante pour la mémoire. Ce qui fait que quand vous vivez une émotion très forte, eh bien, il y a une facilitation en mémoire. C'est exactement ce qui se passe dans le cas de traumatisme, par exemple. Et donc, vous voyez à quel point est-ce que l'émotion peut aider et faciliter certains mécanismes cognitifs. Alors, si je continue par rapport à la définition d'une émotion, eh bien, on voit que l'émotion, elle est composée de deux grandes parties. Une première partie, le déclenchement. Et je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que j'insiste fortement sur ce point qui est très souvent négligé et qui pourtant est le point essentiel en fait pour expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un va ressentir une émotion plutôt qu'une autre. Et puis il y a finalement ce que nous pouvons mesurer en fait des émotions. Donc dans nos laboratoires, par exemple, de recherche, il y a des composants de la réaction émotionnelle que l'on peut mesurer avec différentes méthodes. On peut mesurer l'expression motrice, donc voir à quel point est-ce que quelqu'un va sourire, va froncer les sourcils par exemple. La réaction périphérique, à quel point est-ce qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la sudation, de la sueur par exemple. La tendance à l'action. Typiquement, quand on a une émotion positive, en général, on a une tendance à s'approcher de ce qui a déclenché l'émotion positive. Quand on ressent de la peur ou du dégoût, on a une tendance à éviter ce qui a déclenché ces émotions-là. C'est ce qu'on appelle la tendance à l'action. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ressenti, qui correspond au terme « feeling » en anglais, et l'aspect conscient de l'émotion. Et donc, ce que vous voyez déjà ici, c'est que quand on parle d'une émotion, le terme émotion, en fait, décrit au moins 5 composantes très différentes. Et nous avons des collègues qui passent toute leur carrière à étudier qu'une seule de ces composantes, par exemple. Et c'est intéressant de garder à l'esprit qu'une émotion est, en fait, formée de l'ensemble de ces composantes-là. Et ces composantes-là peuvent être régulées, modifiées, par ce qu'on appelle fréquemment les compétences émotionnelles. Ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle, pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, qui sont un ensemble de compétences qu'ont les individus qui modulent le déclenchement et la réaction, la régulation des émotions. Alors voilà, je voulais prendre ce temps-là pour vous parler de manière un peu plus spécifique de ce qu'est une émotion et quel type de modèle on utilise en 2017 quand on s'intéresse aux émotions. Et ce type d'approche, est en fait très cohérente avec la manière dont on découvre de plus en plus que fonctionne le cerveau émotionnel. On a cru, il y a une soixantaine d'années, avec le modèle du système limbique, que c'était facile. Dans le cerveau, on avait un sous-cerveau qui était le cerveau émotionnel, qui était le système limbique. C'était dans les années 50, d'accord ? Depuis, la recherche a énormément évolué. Et si on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'autres régions dans le cerveau que juste le système limbique qui sont très importantes pour les émotions. Et y compris un grand nombre de régions dites corticales, c'est-à-dire qui sont dans le cortex, d'accord ? Qui sont les régions les plus évolutionnairement développées du cerveau, qui sont aussi très importantes pour les émotions. Et ça modifie un peu les cartes de la manière dont on pensait à une époque que le cerveau fonctionnait. On ne peut plus dire qu'on a un cerveau émotionnel et un cerveau cognitif. D'accord ? Beaucoup de régions cérébrales qu'on identifie actuellement comme importantes pour les émotions, comme des régions du cortex préfrontal, on pensait à une époque qu'elles étaient importantes pour d'autres fonctions que émotionnelles. Alors après cette longue présentation sur la définition d'une émotion, je voulais vous parler un petit peu du rôle des informations émotionnelles comme source de la prise de décision. L'auteur qui a été peut-être le plus influent pour nous lancer sur la piste de la fonctionnalité des émotions et de leur utilité, c'est Charles Darwin, qui, même si ce n'est pas son livre le plus célèbre, a écrit un livre sur les émotions, en 1872, dans lequel il a en fait appliqué sa théorie de l'évolution des espèces aux émotions. Donc son ouvrage s'intitule « L'expression des émotions chez l'homme et l'animal », qui est un ouvrage très important dans lequel il explique que nos émotions sont avant tout le fruit de l'évolution, et qu'il y a, selon lui, une continuité phylogénétique dans les émotions, et notamment la manière dont on exprime nos émotions aurait une fonction directe d'interaction avec l'environnement, et pas seulement de communication et de communication non-verbale. Par exemple, il nous explique que quand on exprime de la peur, essayez de faire une expression faciale de peur, imaginez que vous ayez peur. Vous vous rendez compte que spontanément, vous ouvrez grand les yeux, non ? Eh bien, en fait, selon lui, c'est parce que quand on a peur face à un danger, par exemple un prédateur, il faut maximiser la vigilance et la capacité à percevoir de l'information visuelle pour pouvoir s'enfuir. Donc, il a cette approche-là extrêmement fonctionnelle. Comment est-ce que cela peut nous aider, par exemple, à prendre des décisions ? C'est une étude qui est devenue un peu un classique sur l'utilisation des expressions faciales émotionnelles d'autrui pour prendre des décisions soi-même. On a utilisé dans une série d'études, je vous montre juste un exemple, ce type d'expression faciale émotionnelle, pour voir à quel point est-ce que effectivement ça pourrait influencer des décisions même extrêmement simples. Donc imaginez que vous soyez dans cette expérience au laboratoire. On vous présente deux visages, on vous dit voilà, il y a Rémi et puis il y a Arthur. Et puis il y a un objet qu'on a pris, c'est un objet qui n'existe pas, ce n'est pas le iPhone 9, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Et puis on dit à l'adulte, mais aussi à l'enfant, parce qu'on s'intéresse à comprendre à partir de quand est-ce que l'on trouve ces influences-là, d'après toi, comment s'appelle cet objet ? Et donc on dit à l'enfant ou à l'adulte, Rémi pense que c'est un Ripple, alors que Arthur pense que c'est un Blidu, d'après toi, comment s'appelle cet objet ? Donc c'est un paradigme qu'on appelle de choix forcé. L'enfant doit voter, si vous voulez, si c'est un Ripple ou si c'est un Blidu. Et la question évidemment qu'on se pose, et puis vu le contexte dans lequel je vous en parle, vous devinez un peu la suite, c'est de se demander si les expressions émotionnelles des différents de Arthur ou de Rémi vont avoir un effet. Donc dans la moitié des conditions, évidemment, Arthur dit que c'est un Ripple et c'est Rémi qui dit que c'est un Blidu. Tout ça est contrôlé. Alors qui pense que cet objet est un Blidu ? Peut-être lever la main, ceux qui pensent que cet objet est un Blidu ? Ok, ça marche bien. Et qui pense que c'est un Ripple ? Ok, d'accord. Alors, effectivement, on trouve qu'il y a une différence dans les choix. Ce n'est pas 100% versus 0%, mais il y a une différence qui est significative, c'est-à-dire que la plupart des gens vont plutôt prendre la décision qui a été proposée par la personne qui, en l'occurrence ici, exprimait un sourire. Et notre hypothèse est parce que c'est lié à un signal de confiance. Alors qu'on pourrait très bien penser, notamment pour des enfants qui vont plutôt avoir peur de l'autorité et plutôt choisir ce qui est proposé par celui qui exprime de la colère. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Parce qu'on voit que pour les adultes, pour les enfants de 5 ans, 2, 4 ans, mais aussi pour les enfants de 3 ans, qui est à peu près l'âge minimum auquel on peut faire ce genre, avec qui on peut faire ce genre d'expérience, on retrouve déjà cet effet. C'est-à-dire que des enfants de 3 ans vont plutôt choisir le nom de l'objet proposé par celui qui sourit. Et ce genre d'étude a été, je l'ai découvert en préparant cette conférence, très fortement utilisé aussi en sciences politiques et quand les gens s'intéressent aux déterminants des votes. Il y a par exemple une étude qui a été un classique dans mon domaine concernant les premières impressions, c'est-à-dire de se demander quel genre d'évaluation font les gens quand ils voient un visage pour la première fois. D'accord ? Si on est honnête, d'accord, vous êtes d'accord, on se forme des impressions. Vous voyez quelqu'un pour la première fois, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous faire une impression. Et ce qu'a étudié Alexander Todorov dans un article qui a été très remarqué dans Science à l'époque, c'est de voir si on peut prédire le réel résultat des élections qui ont vraiment eu lieu, simplement basé sur des évaluations sur l'apparence des candidats. D'accord ? Et donc, il a fait une très très grande étude aux États-Unis, dans laquelle il a montré les visages des candidats qui sont dans des États, profitant du fait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'États dans lesquels il y a les élections, qui sont dans des États qui ne sont pas ceux des participants eux-mêmes à l'étude, du coup, ils ne les connaissent pas. Et simplement, ils voient deux visages, comme vous les voyez ici, et la seule question qu'a posée Todorov, c'est, d'après vous, lequel des deux est le plus compétent, en termes de première impression. D'accord ? Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a corrélé simplement ces jugements-là avec les réels résultats aux élections. Et il a pu prédire de manière significative, alors je ne dis pas du tout que c'est le seul prédicteur, hein. Vous savez hein, comment fonctionnent un peu les statistiques, mais c'est un prédicteur qui est significatif du résultat réel à un grand nombre d'élections au Sénat ou à la Maison des représentatifs. Ce qui pose évidemment question de se dire, est-ce qu'on utiliserait à ce point des jugements liés à l'apparence des candidats pour prendre de telles décisions. Et c'est un résultat qui a été répliqué, en fait, dans beaucoup de pays, notamment en Suisse, il y a eu une jolie réplication qui a été publiée dans Science aussi, où ils sont allés dans des écoles, et ils ont demandé à des jeunes enfants, voilà deux capitaines possibles qui pourraient nous emmener sur un bateau. Vous voyez la suite. D'après toi, qui tu choisirais comme capitaine pour le bateau ? Et le choix des enfants en Suisse prédisait de manière significative les résultats de pas mal d'élections régionales en France, alors que les enfants ont juste vu les visages des candidats. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont suivi ça, notamment cette étude dans American Journal of Political Science, dans laquelle ils se sont demandé est-ce que tout le monde est sensible à ce genre d'effet lié à l'apparence ? Et la bonne nouvelle pour la démocratie, il me semble, c'est qu'en fait, c'est un effet qu'on retrouve justement dans les cas dont je parlais tout à l'heure d'extrême ambiguïté ou d'indécision, c'est-à-dire que ce sont les individus qui sont le moins informés par rapport aux différentes politiques des différents candidats qui vont être le plus sensibles à ces effets d'apparence. Donc l'idée est que quand il n'y a pas d'autres informations, bien on va utiliser l'information disponible qui est celle d'une première impression liée à la confiance ou à la compétence par exemple. Donc là, je vous ai parlé de prise de décision électorale, sociale. Maintenant, je vous parle d'un autre très grand domaine dans lequel les gens sont intéressés aux effets de l'émotion sur les décisions, c'est la prise de décision économique, prise de décision financière. Alors, si vous voulez bien participer à cette étude, alors imaginez la situation suivante, d'accord ? Je vais vous demander de faire un choix. Après tout, c'est une conférence sur la prise de décision. Donc imaginez la situation suivante. Vous êtes allongé dans un IRM fonctionnel. Et puis, on vous présente une série d'écrans. On vous présente d'abord ce qu'on appelle un point de fixation, qu'on vous demande de regarder. Et puis après, je vous dis, en tant qu'expérimentateur, vous recevez 50 francs suisses. Donc, vous avez 50 francs. Je vous donne 50 francs que vous recevez réellement dans l'étude. Je donne 50 francs. Et puis ensuite, vous avez un choix entre deux options. Vous devez prendre une décision entre deux options. Entre l'option A et l'option B. L'option A, c'est de garder 20 francs sur ces 50 francs. Ou alors, de jouer à la loterie. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Soit vous gardez 20 francs, soit vous jouez à la loterie. Et le jeu de loterie fonctionne de la manière suivante. Vous avez 40% de chance de tout garder, donc de garder les 50. Ou alors, 60% de chance de tout perdre, donc de rien avoir. Alors, parmi vous, vous devez choisir, ok ? Qui choisit de garder les 20 francs parmi vous ? Ok ? Qui choisit de jouer à la loterie ? Ok, merci. Ça, c'était la première condition. Je vais vous faire à nouveau demander, je vais à nouveau vous demander de prendre des décisions. Certains ont compris. Alors, vous avez le point de fixation ici. À nouveau, je vous donne 50 francs. Et maintenant, vous devez choisir entre deux options. Soit vous perdez 30 francs, soit vous jouez à la loterie, qui est la même loterie que tout à l'heure. Okay, exactement la même. Avec 40% de chance de garder, 60% de chance de tout perdre. Qui choisit de perdre les 30 francs? Levez la main. Ok. Et qui choisit de jouer à la loterie? Bon. Alors, soit ça marche parfaitement, soit vous avez compris le truc. Ce qu'on observe, c'est que bien que les conditions soient absolument identiques, évidemment, d'un point de vue mathématique, vous avez 50 francs, garder 20 ou perdre 30, c'est la même chose, eh bien, les gens, effectivement, et c'est un résultat ultra robuste, prennent des décisions différentes dans les deux cas. C'est ce qui a été appelé par Kahneman en économie le loss aversion effect, l'effet d'aversion à la perte, qu'on retrouve dans beaucoup de modèles. Souvent analysé dans ce qu'on appelle un effet de cadrage, c'est-à-dire selon que le cadre, c'est un cadre de gain ou un cadre de perte, même si tout est égal par ailleurs, la décision sera différente. Et vous imaginez les implications de ça dans la vie de tous les jours. Hein. Si votre médecin vous dit, vous pouvez prendre des médicaments, ces médicaments-là, ou alors vous pouvez vous faire opérer. Si vous faites opérer, vous avez 80% de chances de succès. Ou alors vous pouvez prendre les médicaments ou vous faire opérer. Si vous faites opérer, vous avez 20% de chances d'échec. Eh bien, en fait, la différence entre présenter un cas comme 80% de chance de succès ou 20% de chance d'échec, en soi, peut changer la décision. Alors, ce ne sont pas des effets extrêmement forts, mais ce sont des effets significatifs d'un point de vue statistique. Et la raison pour laquelle je vous en parle ici, c'est parce qu'on a quand même cette intuition que comme c'est un effet d'aversion à la perte, il y a une composante émotionnelle dans cet effet-là. Et de plus en plus d'études, effectivement, suggèrent que c'est le cas. Déjà, peut-être juste pour vous donner la réponse comportementale, on voit que dans la condition de gain, eh bien, vous avez la plupart des gens qui vont plutôt décider de garder le gain que de jouer à la loterie. Ici, c'est le pourcentage de gens qui jouent à la loterie. Donc, vous avez environ 45%, alors que vous avez ici plus de 60% des gens qui décident la loterie quand on présente avec un quart de perte. Oups, pardon. Non, c'est bon, excusez-moi. La théorie de Kahneman, c'est en grande partie ce qui lui a valu le prix Nobel à l'époque, c'est cette idée que les gains ont un poids beaucoup plus fort que les pertes. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que des études en imagerie cérébrale ont montré que probablement, ce qui est à l'origine de cet effet, c'est un effet d'activation de l'amygdale cérébrale que vous avez ici, qui en fait prédit, dont l'activité prédit le choix des gens. Donc l'activité de cette région émotionnelle va prédire à quel point est-ce que les gens vont être sensibles à cet effet de cadrage gain par rapport à perte, avec l'amygdale qui est particulièrement activée dans les conditions où les gens ont décidé de garder les 20 et dans la condition où les gens ont décidé la loterie plutôt que de perdre les 30. Donc il semblerait que ce qui soit à l'origine de la décision dans ce cas-là, ce sont des fonctions très émotionnelles. J'avance un petit peu plus vite, peut-être parce qu'il me reste environ un petit quart d'heure. Et tout ça est utilisé en fait très fréquemment, et c'est juste un exemple d'une campagne que vous avez peut-être vue, qui peut-être sans le vouloir d'ailleurs, met vraiment en place cette différence entre l'effet de gain et de perte, avec certaines affiches qui insistent sur les aspects de gain, et d'autres qui insistent sur l'aspect de perte, probablement avec l'idée que la perte va avoir un impact un petit peu plus fort au moment de prendre la décision que le gain. Et puis, je terminerai pendant le petit quart d'heure qui nous reste sur cette dernière partie qui concerne la distinction entre ce qu'on appelle les émotions incidentes et les émotions intégrées. Imaginez la situation suivante. Désolé, je vous fais prendre beaucoup de décisions ce soir. Imaginez la situation suivante. Vous allez chez votre banquier, vous avez une certaine somme à investir et puis votre banquier va vous proposer deux options. Une option dans laquelle il y a une faible incertitude, mais la récompense est faible. Donc en gros, vous êtes assez sûr de gagner peu d'argent. D'accord ? Ou alors, il vous dit, il y a cette autre option, avec une incertitude élevée, mais une récompense élevée. Donc en gros, vous avez peu de chances de gagner beaucoup d'argent. D'accord ? Il y a quelques banquiers, peut-être que ça vous rappelle, en termes de propositions d'investissement financier. Et la question ici qu'on va se poser, c'est est-ce que l'émotion dans laquelle vous êtes au moment de prendre la décision peut avoir un effet sur la décision que vous prendrez ? D'accord ? Alors, ce qu'a étudié Jennifer Lerner, et je vous parlerai beaucoup d'elle maintenant parce que c'est elle qui a fait le plus de ses études sur ces thématiques-là. Elle dirige le Harvard Decision Making Lab, l'université d'Harvard, et elle travaille énormément sur ces effets des émotions incidentes. Et voilà les deux émotions qui ont été induites dans cette expérience, la peur et la tristesse, qu'on peut induire de plein de manières différentes, on peut y revenir plus tard. Donc, par exemple, avec un film. Imaginez un film qui vous rend triste, on a tous vécu ça, ou alors un film qui vous fait peur. Et juste après, on vous pose cette question-là. Eh bien, ce qu'ont montré les auteurs, c'est que quand on a peur, on a plutôt tendance à choisir la situation avec l'incertitude faible et la récompense faible. L'hypothèse des auteurs est la suivante. Quand on a peur, on active dans le cerveau les évaluations cognitives dont je vous parlais tout à l'heure qui sont liées à l'incertitude. Parce que très souvent, ce qui déclenche la peur, ce sont des situations qui sont assez élevées en incertitude. D'accord ? Essayez de vous rappeler les dernières fois où vous avez eu peur. En général, l'incertitude est présente. Et dans ce cas-là, le participant va essayer de réduire ce sentiment d'incertitude en choisissant une option qui a une incertitude faible, en mettant un peu de côté le fait que la récompense sera faible aussi. Par contre, dans le cas de la tristesse, eh bien, on a un effet opposé, parce que quand on est triste, on est dans un état hédonique plutôt négatif, et puis l'organisme aurait plutôt envie de rechercher des stimulations agréables. Je ne vous parle pas du tout d'état dépressif, hein, un état de tristesse normal. Et dans ce cas-là, ce que proposent les auteurs, c'est que dans la tristesse, notre focalisation attentionnelle va plutôt être sur la dimension de récompense potentiellement élevée, en négligeant un petit peu le fait que, ma foi, l'incertitude aussi, elle est élevée. Et donc, ça nous pousserait plutôt vers cette décision-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats suggèrent que la même personne, selon son état émotionnel, peut prendre des décisions différentes dans ces cas-là. Un autre modèle qui a rendu célèbre Jennifer Lerner, enfin, pas un autre modèle, pardon, mais une autre série d'études, c'est probablement la recherche pour laquelle elle est la plus célèbre, a été de s'intéresser aux différences entre la colère et la peur dans la prise de décision. Imaginez qu'avant de venir ici, vous avez été dans des embouteillages, vous avez eu un accident de voiture, ou quelqu'un vous a coupé la route. Bref, quand vous arrivez dans la salle, vous êtes plutôt énervé et en colère. D'accord ? Imaginez qu'à ce moment-là, vous deviez prendre une décision importante, mais qui a un certain risque. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'évaluer à quel point est-ce que la décision est certaine. D'accord ? Il y a un certain risque. Eh bien, ce qu'a montré Jennifer Lerner dans plusieurs études, c'est que si jamais on est en colère au moment de prendre la décision, on va tolérer un risque bien plus élevé et on va prendre une décision plus risquée. Que si on a peur, parce que quand on a peur, eh bien, on va plutôt prendre une décision moins risquée. Ce qui veut dire qu'avant de prendre une décision importante qui implique un risque potentiel, c'est important de, par exemple, essayer de réguler plutôt ses émotions. Si jamais, et j'insisterai beaucoup là-dessus tout à l'heure, si jamais les options liées à la prise de décision sont indépendantes de l'émotion que vous ressentez. Et c'est ça qui est un peu difficile, parce que les émotions qui sont liées aux différentes options du choix, celles-là, elles sont utiles pour la décision. Par contre, des émotions antérieures qui sont déclenchées par des événements indépendants, celles-là, c'est celles qui peuvent être justement néfastes. Et il y a deux stratégies qui permettraient justement de réduire ces effets, en tout cas deux stratégies. La première, c'est d'essayer de réguler ses émotions au moment de prendre la décision. Donc le fait que maintenant vous le sachiez, peut-être vous allez essayer de faire ça. Et puis, un autre résultat qui a très bien fonctionné dans deux ou trois études de Jennifer Lerner, c'est de demander à un décideur qui doit prendre une réelle décision importante de devoir rendre des comptes, de devoir se justifier. Je ne dis pas ça seulement parce que la Cour des comptes nous fait l'honneur d'être là, mais le fait de devoir rendre des comptes, semble-t-il, fait qu'on va être plutôt dans un mode dans lequel on va rechercher des argumentations et des justifications. Et c'est en fait assez difficile de trouver une justification à une décision qu'on va prendre si jamais elle est avant tout modulée par ces émotions incidentes dont je vous parle. Alors j'en arrive à mes dernières diapositives, un peu de résumé de ce dont je voulais vous parler. avec un modèle général de la prise de décision. Toutes les décisions auxquelles vous pouvez faire face sont structurées de la manière suivante. Vous avez une situation et vous avez des options différentes. Vous allez évaluer d'une manière ou d'une autre la valeur de chacune de ces options. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que probablement on utilisait très souvent nos émotions pour donner une valeur à ces options. L'évaluation va donner naissance à une décision. Et puis, la décision a des conséquences. Le fait d'avoir voulu venir à la conférence plutôt que d'aller boire un verre, a des conséquences, vous êtes là. Et donc, il y a des conséquences aux décisions. Et il y a deux effets de l'émotion sur ce processus. Le premier, c'est ce qu'on appelle « integral emotions » en anglais, ou ce que j'ai traduit par « émotion intégrée », qui sont des émotions qui peuvent être, qui ne sont pas forcément toujours, mais qui peuvent être très fonctionnelles, très utiles, parce qu'elles sont déclenchées par les options elles-mêmes. Si je reprends le tout premier exemple que je vous ai pris tout à l'heure, qui est une question sur laquelle on travaille en collaboration notamment avec Firmenich, sur les liens entre les odeurs et les émotions, bien évidemment, quand vous devez choisir un parfum, à quel point vous l'aimez, vous allez utiliser votre réaction émotionnelle à chacune des options pour faire votre choix. Ça, c'est un exemple assez typique d'une émotion intégrée utile. Mais il y a ces émotions incidentes qui sont celles qu'on peut incriminer, effectivement, parce qu'elles interfèrent avec le processus décisionnel. Alors, laissez-moi prendre un exemple, vu le contexte de la conférence sur une votation populaire. Imaginez que vous devez voter oui ou non pour une votation populaire. Ce que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas forcément que les émotions négatives sont mauvaises et que les émotions positives sont bonnes. Parfois, au contraire, même les émotions négatives peuvent être extrêmement positives, extrêmement utiles. La peur, par exemple, vous permet de réagir face à un danger. Et elle est extrêmement utile pour la prise de décision. Donc, par exemple, quelqu'un qui devrait voter pour un objet qui est lié au changement climatique peut avoir comme émotion face à aux différentes options la peur des dangers liés au changement climatique. Et cette peur-là va effectivement guider sa décision comme une émotion intégrée qui est liée à l'évaluation des options elles-mêmes. Et puis, les émotions incidentes, et c'est avec ça qu'on a commencé la conférence tout à l'heure, vous rappelez, avec la campagne liée à la peur et liée à l'espoir, eh bien, peut venir de nombreuses sources. Et ici, je vous ai juste mis un exemple d'une affiche qui, moi, personnellement, m'avait marqué à l'époque, en 2005, quand justement on lançait notre centre de recherche sur les émotions, qui est extrêmement émotionnelle dans le sens où et carrément exprimer une expression faciale émotionnelle de peur. Mais c'est l'idée que dans de nombreuses situations, il peut y avoir un climat même émotionnel qui fait que, par le biais de ces émotions incidentes, eh bien, il y a une peur qui va être déclenchée, qui n'est pas liée aux options elles-mêmes. D'accord ? Là, je ne suis pas en train du tout d'avoir une valeur politique particulière, parce qu'un individu peut tout à fait penser que c'est dangereux de voter, en l'occurrence pour Schengen, ce qui n'est pas ce que je veux dire ici, ça serait une émotion intégrée. Mais le fait qu'il y ait une iconographie qui elle-même peut induire une émotion qui est indépendante des options, c'est typiquement une émotion incidente. Je suis content du timing, j'ai fait exactement le temps que je voulais, il me reste la conclusion à vous faire passer. Première conclusion, qui va de soi, mais je pense que c'est important de le rappeler. Même s'il y a une seule décision, par exemple politique, il y a un bulletin de vote, vous prenez une décision, il y a en fait de très nombreux déterminants à cette décision. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une décision émotionnelle et une décision rationnelle, si vous voulez. On a un seul cerveau qui finalement va, dans son ensemble, amener à une décision, mais avec un grand nombre de mécanismes qui peuvent être en conflit ou qui peuvent coopérer. Et en général, les émotions, elles sont très utiles pour effectivement donner une valeur très rapide à nos intuitions qui permettent d'arriver à des conclusions. Le deuxième point, l'idée globale, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que les émotions sont systématiquement mauvaises pour la prise de décision. Et en fait, elles sont souvent utiles, et évolutionnairement, c'est probablement en grande partie pour ça qu'on a des émotions. Et c'est justement là qu'est le problème. C'est-à-dire que comme elles sont très souvent fonctionnelles et utiles, on a tendance à leur faire confiance. Et donc, si jamais certaines personnes décident ou ont envie de manipuler nos émotions, comme on a une tendance à leur faire confiance, eh bien, cette manipulation peut bien fonctionner. Et puis finalement, le dernier point sur lequel je voulais insister d'un point de vue scientifique, c'est que le type de recherche qui se développe, alors notamment à Genève, mais aussi dans d'autres universités, essaye de théoriser ce genre de processus et de créer des modèles, un peu comme je vous ai présenté ici, de comment fonctionne le cerveau et l'esprit humain, notamment les liens entre les émotions et la prise de décision, ce qui permet de faire des prédictions sur comment est-ce que les émotions peuvent moduler l'attention, la mémoire ou la prise de décision. Et sur ce, je vous remercie énormément pour votre attention et vos émotions positives, j'espère.
Merci.
J'ai l'impression que c'est un vote plutôt positif. Merci.
Ça m'en a tout l'air. Je vais remercier moi aussi David Sander et avoir le plaisir de vous laisser l'opportunité de poser l'une ou l'autre question. A priori pour 15-20 minutes d'échange avant que vous ne soyez tous que debout et désireux d'aller manger quelque chose. Donc n'ayez pas peur. Oui, monsieur, je vous en prie.
Je discutais ce week-end avec un membre de ma famille qui est étudiante à l'Université de Genève et qui me racontait que le harcèlement était en augmentation. On en parle beaucoup d'ailleurs dans les médias, y compris à l'Université de Genève. Il me citait le cas d'un professeur de l'université qui avait demandé à une étudiante que si tu n'écartes pas les jambes, tu n'auras pas la signature sous ton master. Il me racontait le cas d'une amie qui s'est fait violer par un voisin de palier. Et puis l'enjeu était de dire, mais pourquoi vous ne déposez pas plainte? Pourquoi, par rapport à une réaction émotionnelle aussi importante qui touche à l'intimité, qui donc devrait provoquer une réaction, n'en provoque finalement pas, puisqu'on se rend compte que les femmes qui sont violées, généralement, déposent rarement plainte.
Oui.
Est-ce que c'est dû aux émotions incidentes et le risque de savoir que finalement il n'y a pas de suivi ou une réponse judiciaire faible alors que le phénomène est en confrontation?
Alors, c'est une question difficile, effectivement. Sur les aspects purement psychologiques, indépendamment de l'Université de Genève, ou parce que les harcèlements, je pense qu'il y en a effectivement partout. Je dirais que, en tout cas, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a une absence de réaction du tout de la part de la personne, parce que les effets doivent être massifs d'un point de vue du traumatisme qui est créé, d'un point de vue de la mémoire émotionnelle qui va rester de la situation. Par contre, il n'y a pas le comportement qui serait peut-être le plus souhaitable dans sa globalité, qui est que massivement, les personnes qui sont victimes de ce type d'harcèlement portent plainte. Donc c'est peut-être une situation dans laquelle la personne a elle-même peur, par exemple dû à son intimité, de dévoiler ce qui lui est arrivé. Donc c'est des choses que malheureusement on retrouve assez souvent, le fait que les individus hésitent à déposer plainte ou hésitent à montrer aux autres à quel point eux-mêmes ont été faibles, ont été attaqués, etc. Est-ce que c'est une émotion intégrée? J'aurais du mal à vous dire là-dessus. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça crée un état de peur très très fort. Donc ça va créer un état d'incertitude aussi très très fort. Et si jamais on pousse, mais on est vraiment dans le spéculatif, cet état d'incertitude très très fort pourrait être projeté, par exemple, dans ce que vous disiez, l'incertitude de est-ce que ça va fonctionner, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que la plainte va vraiment aboutir ou non? Et si on est vraiment incertain, du coup, dans le système à cause de certaines incertitudes déclenchées, ça pourrait favoriser le fait de ne pas porter plainte. Mais c'est vraiment de la spéculation. J'avoue que personnellement, je n'ai jamais étudié scientifiquement ces cas.
Je peux peut-être ajouter quelque chose, parce qu'il serait vice-recteur aux ressources humaines, donc je ne pensais pas du tout intervenir. Mais sachez que d'ici un mois ou deux, on va lancer une grande campagne contre le harcèlement, qui est pilotée par le bureau de l'égalité, mais aussi avec les ressources humaines, les gens des facultés, etc. C'est presque impossible de savoir si c'est en augmentation ou pas. Ça l'est probablement du point de vue de certains réseaux sociaux, dont je connais très mal tout ça, mais qui sont accessibles dans un auditoire et où des étudiants se moquent d'étudiantes en des termes parfois insensés. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, forcément. Après, il y a une chose qui est claire. c'est qu'on est très démunis quand les gens viennent voir les ressources humaines ou l'égalité en disant « c'est secret, n'en parler à personne ». On a encore un cas, c'est arrivé aujourd'hui, où j'ai écrit à différentes personnes, mais on l'a découvert presque par hasard. Et pour le reste, il y a déjà eu des professeurs licenciés ici ou à Lausanne, c'est-à-dire on ne met pas la poussière sous le tapis. Je vous en prie, monsieur.
Je voulais savoir si maintenant des émotions dans la prise de décision varient avec la personne jeune, une personne âgée.
Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que cette influence va démarrer très très tôt dans la vie, comme on l'a vu ici. Ce qui est beaucoup étudié dans le domaine de l'émotion, c'est cette question de savoir est-ce que, avec l'âge, les individus ont plus d'émotions positives qu'avant. Donc il y a ce qu'on appelle le biais de positivité, qui est très souvent retrouvé dans nos études avec l'âge. Alors si c'est vrai que ce biais de positivité existe, on pourrait imaginer que ça vient d'une interprétation un peu différente, une certaine sagesse, si on veut dire, dans l'évaluation des situations. Et donc peut-être que l'effet à ce moment-là serait un peu différent sur les prises de décision, si jamais les émotions elles-mêmes sont un peu différentes pour une même situation, vous voyez, puisque l'évaluation sera différente. Par contre, imaginons qu'il y ait la même émotion entre une personne âgée et puis une personne moins âgée, pour prendre votre exemple. Je ne vois pas de raison qui expliquerait que là, il y a une différence dans l'effet de l'émotion sur la prise de décision. Alors, je ne connais pas personnellement d'études qui ont spécifiquement testé ça, mais je ne ferai pas la prédiction qu'il y a une différence, personnellement. Oui, je ne sais pas.
Merci.
Ouais.
Monsieur, je vous en prie.
Merci. En fait, je voulais savoir s'il y avait un registre de l'émotion collective. C'est-à-dire, on prend des décisions. Enfin, les émotions ont l'air d'être personnelles.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a un registre émotionnel qui est collectif en nous-mêmes ?
En nous-mêmes ?
Oui. C'est-à-dire qu'il ne soit pas l'accumulation des individus. Okay.
Alors là, on pourrait en discuter longuement, c'est un thème passionnant. Il y a deux manières dont ça a été étudié, donc l'idée des émotions collectives et des émotions individuelles mais collectives, comme je vais vous expliquer. Alors les émotions collectives, une des manières de les étudier, c'est l'idée de la contagion émotionnelle. Et par exemple, c'est vrai que dans une foule, sans parler des émotions dans les stades de foot par exemple, ou quand les gens sont dans la rue, il y a des émotions qui seraient déclenchées chez une personne, qui ne seraient pas forcément déclenchées si la personne était seule, mais qui le sont parce qu'il y a un effet de groupe, et qui peut être dû notamment à un mécanisme qu'on appelle le social appraisal, ou l'évaluation sociale, qui est le fait que pour évaluer une situation, d'accord, très souvent, on va intégrer la manière dont les autres évaluent la même situation. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que vous alliez à un musée d'art contemporain ou d'art moderne, quelque part, et vous êtes là extrêmement perplexe en face d'une œuvre d'art qui est un tableau gris magnifique avec une rayure blanche. Okay, imaginez ça. Et puis vous, ça vous rend perplexe, mais vous avez à côté de vous deux personnes que vous considérez comme étant des experts qui vont avoir des émotions extrêmes, émotions esthétiques très fortes vis-à-vis de cette œuvre d'art. Et bien là, probablement que votre propre évaluation esthétique de l'œuvre d'art va être modulée par la manière dont les autres réagissent à cette même œuvre d'art. Si on est tous allés une fois au cinéma, et puis notre propre évaluation d'à quel point le film nous a plu ou non dépend en partie de la manière dont les autres ont évalué le film. Donc ça, c'est un aspect, si vous voulez, qu'en groupe, on prend en considération les émotions des autres pour moduler notre propre réaction émotionnelle. Mais la deuxième réponse, qui est plus directement liée à votre question, sur l'intégration du collectif dans l'identité, dans l'individu, il y a des recherches qui considèrent ce dont j'ai parlé par rapport aux préoccupations et aux valeurs individuelles, aussi d'un point de vue de l'intégration identitaire. C'est-à-dire, dès lors qu'on parlerait par exemple d'un Genevois, eh bien, si jamais quelqu'un dit quelque chose d'offensant vis-à-vis des Genevois et que vous-même vous avez intégré dans votre identité le fait d'être Genevois comme important, même si en tant qu'individu vous n'êtes pas attaqué, vous allez avoir une réaction très très forte. Et on a ça évidemment pour les religions, dans le nationalisme. Donc on a plein de situations pour lesquelles ce n'est pas nous-mêmes en tant qu'individu qui sommes attaqués, mais en tant que groupe. Et si on a intégré dans notre identité le fait de faire partie de ce groupe et que c'est très saillant, eh bien, la réaction émotionnelle peut être extrêmement forte, comme si on était nous-mêmes attaqués. Il y a beaucoup d'études là-dessus, en fait.
Monsieur ?
Excusez-moi, je reviens sur votre premier propos, qui, qui parlait de la définition.
Oui.
Et en fait, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une réaction d'adaptation par rapport, oui, à ses propres valeurs? Parce qu'en fait, oui, le déclencheur que vous soulignez, mmh, il est, à mon avis, compris dans le fait que l'individu réagisse.
Oui, d'accord.
Alors, ma question, en fait, elle se dit, au fond, à partir de quel moment on peut dire que la réaction d'adaptation est liée à une émotion, mmh, ou bien est liée à un raisonnement?
D'accord. C'est une question complexe, merci. Sur l'idée que le déclencheur lui-même fait partie de la réaction émotionnelle, c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire avec l'idée des composantes de l'émotion. C'est-à-dire que le processus de déclenchement lui-même, d'évaluation cognitive, qui est assez complexe dans certains cas, d'évaluation par exemple de la nouveauté, de la pertinence, etc., c'est en tant que tel une composante de l'émotion et ce n'est pas juste un déclencheur du reste. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est tout à fait du même avis. Ça fait partie de l'émotion. Alors ensuite, votre deuxième partie de la question était, est-ce que finalement, quand on réagit émotionnellement, on adapte aussi du coup ses valeurs, par exemple, à la situation? Alors, pour moi, c'est moins clair. Pourquoi? Parce que les valeurs elles-mêmes, si on pense les grandes valeurs comme la liberté, l'égalité, par exemple, la sécurité, disons, ces valeurs-là sont relativement indépendantes de l'évaluation des situations. Si jamais vous avez quelqu'un qui va vous attaquer, pour vous la sécurité est une valeur importante, d'accord ? Et vous allez évaluer la situation en fonction de cette valeur-là, et vous allez l'évaluer comme dangereuse et réagir avec de la peur. Mais l'importance, la priorité de la sécurité à ce moment-là, c'est une valeur qui n'est pas forcément modifiable par le processus lui-même. Ou alors c'est des recherches qu'on pourrait mener pour voir si les réactions émotionnelles des gens vont changer leurs valeurs. Une certaine littérature qui pourrait parler en faveur de ce que vous dites, c'est toute la littérature sur ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est cette idée très étudiée selon laquelle si jamais vous faites quelque chose qui ne correspond pas à vos préférences ou vos valeurs, comme vous avez fait quelque chose, ben, ce comportement ne peut pas être changé. Du coup, parfois, pour être en cohérence et en consonance cognitive, ben, on changerait plutôt ses convictions. Parce que le comportement, lui, ne peut pas être changé. Donc c'est l'idée selon laquelle, si jamais on a voté une fois, par exemple, pour un parti extrémiste, bah, comme on a voté pour ce parti, bah, on pourrait se dire, ah bah finalement, puisque j'ai voté pour ce parti, mes convictions changent du fait de mon action. Donc ça, c'est les théories de la consonance cognitive. C'est un petit peu différent que des valeurs elles-mêmes, mais c'est lié. Ça vous satisfait? Ouais. Merci.
Merci. Merci.
Merci. Est-ce que vous auriez des recommandations à faire pour prendre des décisions complexes en intégrant les émotions de manière aussi optimale que possible?
Alors, c'est une question très importante, puis évidemment très, très compliquée. Moi, j'aurais l'impression de dire que si on veut être dans l'optimal, puisque vous parlez de prise de décision complexe, ça veut peut-être dire des décisions dans lesquelles on a le temps, pour lesquelles on a plus de temps. Et dans ce cas-là, si on a plus de temps, ça vaudrait la peine, soi-même, au moment de prendre la décision, déjà, d'essayer, par l'introspection par exemple, ou par l'analyse de ce qu'on vient de vivre juste avant, de repérer si oui ou non il y a des signes d'émotion incidente. Et je pense que vraiment, ça peut aider, je vous recommande d'essayer à l'occasion, si vous vous retrouvez à être désagréable et à insulter quelqu'un, demandez-vous si vous n'avez pas eu un épisode de colère juste avant qui est totalement indépendant et qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Et si c'est le cas et que ça arrive à la conscience, vous pouvez adapter votre réponse. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ce serait ces émotions qui sont déclenchées par les options. On peut aussi avoir une certaine réflexion sur ses propres réactions émotionnelles. Et dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de se les justifier? C'est-à-dire, si jamais je réagis comme ça face à cette option, j'ai évalué la situation de telle manière, ça fait appel à telle ou telle valeur. Et si on est d'accord quelque part avec ces valeurs-là, et qu'on les intègre, enfin comment dire, qu'on les accepte, ben, on va être en tout cas en cohérence. On sera rationnel dans le sens où notre réaction émotionnelle va être tout à fait cohérente avec ce qui est important pour nous et nos valeurs. C'est ce qu'on appelle parfois la rationalité personnelle, la rationalité subjective. Vous avez un but. Vous réussissez à atteindre ce but,
grâce à une émotion, par exemple, c'est rationnel. Ce n'est pas forcément une rationalité collective, parce que d'autres personnes peuvent trouver irrationnel d'avoir décidé de voter, par exemple, pour tel parti. Mais si ça correspond à vos convictions, c'est une rationalité personnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Je n'ai pas d'autres recettes, malheureusement, plus abouties.
J'aimerais revenir aux émotions collectives, c'est-à-dire au climat émotionnel au travail. Est-ce qu'on peut mesurer le climat émotionnel au travail pour avoir une idée quel est le climat émotionnel au travail dans un groupe, par exemple?
Alors, on peut probablement mesurer au niveau de chaque individu avec des questionnaires qui valent ce qu'ils valent, mais qui existent et qui peuvent être utilisés pour avoir une idée du bien-être, de la satisfaction au travail et d'émotions que les gens ressentent dans certaines situations. C'est ce qu'essayent de faire certains tests maintenant sur les compétences émotionnelles ou l'intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai qu'on reste au niveau des émotions individuelles. Alors, pour mesurer le climat émotionnel, de manière plus subtile que juste moyenner les émotions du groupe, j'avoue que j'ai pas d'idée spécifique. Non. Ouais. Quelque chose à créer.
Moi, j'ai une question par rapport aux gens qui doivent prendre des décisions qui sont parfois qui peuvent parfois changer la vie d'une personne. Ouais. Et je me dis, enfin, j'aimerais avoir votre avis professionnel sur le fait qu'aujourd'hui, par exemple, les aéroports ne se basent plus sur la personne qui regarde le ciel en disant « Ah, ben, il fait beau, on va y aller ». Par contre, dans les cas de procédure judiciaire, c'est toujours une personne, un juge, qui va trancher à la fin. Cette personne, maintenant que j'ai vu votre présentation, cette personne va chaque fois donner un avis en fonction des émotions de son vécu, de si elle a eu un accident. Je trouve ça absolument terrifiant. Et je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas arriver un jour à un système de juge électronique. Enfin, c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais... Gardons les avocats, mais les juges, c'est terrible après vous avoir entendu.
D'accord. Oui, alors c'est vrai que le système judiciaire, disons, se questionne aussi sur ces aspects-là. Et c'est vrai que même si les émotions des avocats, évidemment, ils en jouent, ça fait partie de la rhétorique et tout le monde accepte évidemment les émotions des avocats. Par contre, il y a quelque chose qu'on appelle souvent la neutralité du juge et on peut raisonnablement questionner, à mon avis, le fait qu'il est possible pour un individu, même un juge, d'être totalement neutre, surtout quand on voit en fait à quel point est-ce qu'il est face à des victimes qui sont dans une souffrance terrible, à des potentiels coupables qui peut-être eux-mêmes ne ressentent pas la culpabilité. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que la culpabilité est une émotion et qu'on dit que quelqu'un est coupable ou non. Et il y a des gens qui ne ressentent pas de culpabilité et ça va aussi être un argument pour un juge de dire qu'il n'a pas l'air de prendre conscience de la gravité des faits, parce qu'il ne ressent pas une émotion quelque part liée à l'idée d'être coupable. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, pour avoir discuté avec des collègues, c'est une question qui se pose. Il y a même, dans le domaine juridique, des articles qu'on a lus et qu'on a discutés à une occasion, dont un très bon qui s'appelle « La colère du juge », qui essaye d'expliquer dans quelle situation est-ce que le juge va utiliser en fait sa réaction de colère, qui peut être d'ailleurs justifiée, si c'est une émotion intégrée, face à quelque chose d'extrêmement injuste ou une offense, pour prendre sa décision. Mais, personnellement, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait remplacer les juges par des ordinateurs, parce que dans ce cas-là, il y a eu un film de science-fiction, d'ailleurs, qui s'est penché sur cette question-là. Et si jamais on enlève même la subjectivité humaine, eh bien, on arrivera dans des situations où, certes, il y aura une jurisprudence, etc., parce qu'exactement les mêmes faits donneront naissance aux mêmes conclusions, d'accord ? Mais on ne pourra pas prendre en compte les aspects de justification, les aspects d'explication du comportement, de justification du comportement. Les juges font souvent appel à des experts. Par exemple, dans mon domaine, de plus en plus de chercheurs vont au tribunal pour expliquer que, par exemple, tel potentiel coupable, tel accusé, pardon, a une lésion ou a une tumeur dans l'amygdale. Est-ce que quelqu'un peut être
coupable si jamais il a une tumeur dans l'amygdale. On a eu une experte, par exemple, qui est dans notre panel pour le NCCR, qui a annulé sa visite parce qu'elle a été appelée au barreau de New York pour évaluer un cas d'un patient, enfin d'un patient, d'un accusé, qui avait dans son IRM fonctionnel une anomalie au niveau de l'amygdale cérébrale. Et donc les juges utilisent quand même des experts pour les accompagner dans des décisions qui ne sont pas arbitraires. Donc de ce point de vue-là, on est un peu protégé quand même de l'aspect arbitraire, me semble-t-il, ou j'espère en tout cas, mais je ne pense pas qu'on peut parler d'une réelle neutralité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais ouais, ouais.
Nier la neutralité en Suisse, on a retiré des passeports pour moi, il me semble. Ceci est une plaisanterie, bien sûr. Je crois que quelqu'un levait la main pour une question. En fait, là, j'en vois trois maintenant, et en fait, on a dépassé le temps. Mais comme ça a l'air d'être vraiment des échanges très très riches, on ne va pas compter le temps, on va continuer encore un peu comme ça, je vous en prie.
J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut être attentif dans l'éducation d'un enfant,
ouais,
pour la préparer ou pour le préparer pour le futur, comment que la personne, que l'enfant puisse prendre des décisions, des meilleures décisions, les décisions le plus optimales possible.
D'accord, waouh. Alors, question très importante, il y a la pédagogie et à l'éducation. Alors, de ce que je dirais actuellement, pour m'être en fait récemment intéressé au lien entre émotion et éducation et pédagogie, c'est que il existe pas mal de, maintenant d'arguments qui sont pas très fréquents, mais ceux qui existent sont intéressants. De dire que l'éducation, presque l'éducation sentimentale, si vous voulez, c'est-à-dire l'apprentissage des compétences émotionnelles, peut être utile, non seulement pour le bien-être des enfants, mais même pour leur performance à l'école. C'est-à-dire qu'il y a un centre à Yale, qui est le Yale Center for Emotional Intelligence, qui est maintenant presque dédié uniquement à l'apprentissage socio-émotionnel des enfants, où ils ont mis en place tout un programme éducatif pour faciliter les compétences de reconnaissance des émotions, de régulation de ses propres émotions, des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais l'apprentissage d'un lexique émotionnel. Le fait que des tout-petits soient capables d'utiliser les mots honte, les mots embarras, les mots culpabilité, les mots fierté, puissent dire « tu m'as mis en colère », apparemment facilite leur bien-être, mais aussi semble augmenter leur performance scolaire. Donc je dirais que tout ce qui peut favoriser une prise de conscience de la part des enfants de leur réaction émotionnelle adaptée face à l'environnement peut être bon. Et que les arguments aussi qu'on a, c'est qu'une pédagogie plutôt positive est meilleure qu'une pédagogie qui serait basée sur la punition. Ça paraît facile, trivial à dire, mais il y a encore actuellement des enseignants qui utilisent assez fortement les punitions, par exemple, pour arriver à l'apprentissage des enfants, ce qui n'est probablement pas une bonne solution. Voilà, on pourrait en discuter plus, mais voilà quelques idées.
Merci, madame.
Merci beaucoup pour tout ça, c'est passionnant, ça soulève beaucoup de questions.
Merci.
J'en ai une.
Génial.
Qui est d'avoir un peu votre avis au niveau de la temporalité par rapport à une prise de décision dans, ouais, un contexte de la santé. C'est-à-dire que si on est. On va au mois de janvier nous obliger à faire des consultations en 20 minutes.
En tant que médecin?
Oui. D'accord. Et moi, je ne fais pas le même travail en 20 minutes qu'en 45 minutes ou en une heure. Donc, ma première réaction émotionnelle est d'être assez inquiète sur la qualité de ce que je vais pouvoir faire comme travail avec les gens.
D'accord.
Il y a de l'enseignement, il y a de la mise à plat des émotions pour pouvoir les aider à prendre des décisions de la façon qui est la plus cohérente et la plus en phase avec eux-mêmes.
Pour aider les patients.
Oui, pour les patients. Comment, alors, on peut se dire, on va faire 3 fois 20 minutes, hein, puis on va étaler dans le temps.
D'accord. Ouais.
Ou alors on va se dire, on va se plier en 4 et on va faire que 20 minutes, mais on fera beaucoup moins et on fera beaucoup moins bien, parce qu'il y a de l'émotion dans tout, pas seulement dans les syndromes de stress post-traumatique. Hein, je veux dire, il y a de l'émotion dans des décisions qui peuvent paraître beaucoup plus neutres et banales, et en fait, derrière, il y a tout un monde. Comment vous jugez la temporalité quand on travaille avec les gens sur les prises de décisions qu'ils vont prendre ?
Alors, question effectivement qui fait réfléchir. Merci. Alors, ma première réaction comme ça, c'est de vous répondre sur la durée des émotions. C'est-à-dire qu'on a vraiment actuellement tendance à considérer, pas que actuellement d'ailleurs, ça fait presque partie des définitions qu'on a toujours eues de l'émotion, comme étant un épisode très bref. de réaction. C'est-à-dire qu'une émotion va être déclenchée, et puis vu l'ensemble des composantes de l'organisme qu'elle met en jeu, d'un point de vue énergétique pour l'organisme, si la même émotion durait très très longtemps, on aurait des épisodes de stress potentiellement très très forts. Et donc c'est vrai qu'en général, si on essaie de mesurer la durée d'une émotion, c'est quelques secondes, peut-être quelques minutes, et puis après, il n'y a plus une émotion très très forte. Par contre, ce qui reste, c'est une humeur, évidemment. Et puis, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est des émotions qui se réactivent. On a tous vécu ça dans des cas de tristesse très forte, après, dans un deuil, par exemple. Dès que vous pensez à la personne décédée, vous avez un épisode de tristesse. C'est ce qu'on appelle les ruminations. On ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais en fait, on a aussi tous vécu que dans ces périodes, on a parfois des fenêtres dans lesquelles on peut même avoir des émotions positives. D'accord ? Mais dès qu'on repense à l'événement, à la perte, on a à nouveau de la tristesse. Donc d'un point de vue de la temporalité, les émotions sont des épisodes très brefs dans le temps, quelques secondes, peut-être quelques minutes. L'humeur peut rester plus longtemps. Et puis après, il y a aussi des phénomènes affectifs qui peuvent durer des dizaines d'années, comme les préférences. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le chocolat, par exemple, ben, ça peut durer extrêmement longtemps. Vous avez cette préférence qui est aussi une réaction affective. D'accord ? Voilà, donc dès lors qu'on travaille avec les émotions, il faudrait, à mon avis, si l'idée est de travailler avec les émotions des patients, des fenêtres temporelles brèves, peut-être répétées, c'est peut-être pas plus mal que d'avoir une très longue période où il pourrait y avoir une sorte d'épuisement émotionnel. Mais voilà, on peut y réfléchir plus, c'est juste ce qui me vient à l'esprit.
Monsieur ?
Que sait-on de la transmission de certaines réactions émotionnelles par des voies génétiques ou épigénétiques.
Donc au-delà du sourire au-delà de qu'on échange.
La communication visuelle ou. Ça a été évoqué dans le cas de traumatismes extrêmement violents.
Donc par exemple, est-ce que des odeurs corporelles pourraient véhiculer des émotions
de viol ou de situation de guerre.
Alors attends. Ah, tu veux dire, est-ce que par exemple des parents qui auraient vécu un traumatisme transmettraient à leurs enfants quelque chose du trauma indépendamment de leur expliquer
Exactement.
Alors, celui qui a écrit sur ces questions-là, c'est Boris Cyrulnik notamment, qui s'est penché sur la question. Alors, son argumentation, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps sur ces questions-là, son argumentation est que oui, il y a une transmission. Et d'après lui, cette transmission se fait de par le fait que les enfants, dès leur très très jeune âge, sont assez experts pour détecter des indices, même très subtils, de réactions émotionnelles un peu inadaptées face à des situations. C'est vrai que vous avez vu ces petits enfants de 12 mois déjà qui peuvent décoder des expressions émotionnelles. Et donc son argument est que oui, il y aurait une transmission, de par le fait que l'enfant peut s'attendre à telle réaction émotionnelle mais qui n'a pas du tout lieu. Et que du coup, ça crée une sorte de désadaptation. On parlait d'une réaction adaptée tout à l'heure. Et du coup, il n'aurait pas peut-être des réactions lui-même adaptées à des situations parce qu'il a observé des gens très importants pour lui dont finalement il va imiter des réactions émotionnelles dans certaines situations qui sont du coup inadaptées de par cette transmission un peu générationnelle, même si rien n'est dit, rien n'est montré, rien n'est explicité. Voilà son argument. Ouais.
Ok, je vais en frustrer quelques-uns, mais vous pouvez toujours venir le voir après, il répondra très volontiers à vos questions. Donc je vous mets sous pression émotionnelle, la dernière question est pour vous.
Merci, je vais faire de mon mieux. Merci pour cette présentation, j'ai été surpris par l'omniprésence des enfants tout au long de votre présentation, que ce soit des spots publicitaires, aux expériences de pensée ou bien les expériences tout court, et aussi dans l'assistance, ça a l'air d'être un sujet assez prédominant.
C'est vrai, ouais.
Je voulais du coup revenir sur, je crois, l'expérience de Ripoll ou Blidu, donc sur cet objet fictif où vous aviez montré des statistiques qui montraient ce que répondaient les enfants, et aussi les adultes.
Oui.
Et j'ai intuitivement un doute sur la manière dont on réagit en tant qu'adulte face à cette question de savoir lequel de Ripoll ou de Blidu correspond le mieux à cet objet. Face à deux images de synthèse, une qui sourit et une qui sourit pas. Si je suis devant ce test, je me dis, il y en a une qui sourit. Instinctivement, elle veut vouloir me dire que c'est la bonne réponse. Je peux cliquer sur cette bonne réponse. Mais je peux aussi dire en tant qu'adulte, c'est un test de psychologie. Je peux très bien répondre à côté ce qu'un enfant, et c'est toujours une intuition, ne serait pas en capacité de faire. Du coup, ça m'amène à vous poser la question de savoir si vous distinguez entre des émotions chez les adultes ou les enfants. Je sais que c'est pas très répandu comme théorie. Les gens ont plutôt tendance à considérer les émotions comme quelque chose de primal.
Ouais.
Mais il y a des théories de pseudo-émotions, notamment dans le domaine de l'art, de la musique.
Oui.
Et j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez, peut-être dans ces domaines-là, d'une distinction entre émotions chez les adultes ou chez les enfants. Et peut-être comme fil rouge, je titrerais le théâtre où on demande à des adultes de faire des émotions. Mmh. Grosso modo, il y a aussi beaucoup de théories à ce point-là.
Ouais, ouais.
Et à d'autres adultes de les ressentir. Mmh. Mais entre adultes consentants, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un cadre, il y a une scène. Mmh. Est-ce que ce type-là a vraiment peur ou pas? Et ouais. Pourtant, mmh. On parle d'émotions et de théâtre comme si c'était intimement lié.
Mmh. Voilà. Ok, merci. Alors je dirais, pour essayer de répondre à la question sur le développement des émotions, qui est finalement une question qui se pose de plus en plus dans notre littérature, notamment liée aux troubles du développement. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des enfants qui souffrent du spectre autistique, quel type de troubles émotionnels ils vont avoir? Et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont aussi évalués pour essayer de voir quel déficit émotionnel il pourrait y avoir. Alors, ce que l'on observe assez souvent, c'est qu'au cours du développement, les enfants vont avoir des réactions émotionnelles effectivement très intenses, notamment parce qu'ils vont moins réguler et moins contrôler leurs émotions. Et d'un point de vue purement neuroanatomique, c'est assez simple à expliquer parce que les régions qui nous permettent à nous de réguler ou de contrôler nos émotions sont principalement situées dans le cortex préfrontal, qui est la région qui va être la plus tardive en maturation. Mais ce qui explique pourquoi quand nous, on peut faire de la régulation qu'on appelle de la régulation intrapersonnelle, c'est-à-dire vous pouvez vous-même décider de réguler votre colère ou votre peur, un enfant aura beaucoup de mal. Et c'est pour ça que les enfants demandent de la régulation interpersonnelle, de par leurs parents par exemple, qui doivent en fait réguler l'émotion des enfants. Donc si vous avez des jeunes enfants qui font des crises de colère, ça ne sert à rien de leur dire calme-toi s'ils sont très jeunes, parce qu'ils ne sont pas outillés, si vous voulez, quelque part pour ça. Il faut par contre évidemment mettre en place un système de régulation des émotions interpersonnelles pour les aider à diminuer leurs émotions. Ça, c'est une première réponse sur la régulation. La deuxième, elle est liée aux catégories émotionnelles, presque aux concepts émotionnels qu'ont les enfants. Il y a une approche, qui est celle de James Russell, qui s'est beaucoup intéressé au développement des émotions, qui est de dire que la première catégorie qu'auraient les enfants, ce serait entre content, pas content. C'est-à-dire que les enfants seraient capables de dire que quelqu'un est content ou pas content, mais dans pas content, que ce soit pas content triste ou pas content en colère, ce serait à peu près la même chose au début. Et que de par ces deux grandes catégories qui sont des émotions, disons, positives, négatives, avec lesquelles les enfants commencent, ils pourraient petit à petit, à partir de 3, 4, 5 ans, avoir des sous-catégories dans lesquelles il y a des termes émotionnels. Dans pas content, ben, il y a triste qui est différent de colère, que nous, adultes, on réussirait très bien à faire. Mais là, c'est vrai qu'on repose beaucoup sur des concepts et le langage, par exemple. Ça reste à plus étudier de savoir si des réactions extrêmement rapides face à des expressions faciales, les enfants, dans quelques exemples, avaient 12 mois, par exemple, ne serait pas présente, même si l'enfant n'a pas le concept ou le mot pour en parler. Donc là, il y a un petit décalage, si vous voulez, entre des études qui vont s'intéresser aux concepts émotionnels qu'ont les enfants et des études qui vont s'intéresser vraiment aux réactions émotionnelles qu'ont les enfants très très tôt. Voilà, une réponse. Merci.
Bien, je tiens à vous remercier toutes et tous d'être restés jusqu'ici. Je pense que c'est la preuve que ça vous a passionné. Je vous avais dit au début que c'était un grand savant. C'était pas seulement pour lui faire de la lèche, ce que je fais d'ailleurs assez rarement, surtout avec ce vieux camarade. Mais le signe qu'il est, c'est qu'au terme de cette soirée, on est peut-être plus intelligent, mais on est sûrement moins bête. Donc bravo.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.
Nadoua.
Voyage avec les experts dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation.